Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode news pour le deuxième pour mai 2025. Vous êtes sur Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et oui, on passe sur la RC2 du mois de mai. Donc, candidate release, deuxième épisode du mois de mai avec des news où on va revenir sur... La conférence d'Evox qui a eu lieu, il y a un mois, 15 jours maintenant, je ne sais plus trop.
Oh, ça fait un mois, ouais.
Quasiment un mois. Mais le gros avantage, c'est que pour tous ceux qui n'y sont pas allés, on va pouvoir accéder à toutes les vidéos qui viennent d'uploader directement. On va parler du retour de Strapi, qui a fait aussi sa conférence. On va parler de flux RSS, on va parler d'animation SVG, on va parler d'outils pour les devs, de cheat sheet, évidemment, et on va parler aussi sur des agents MCP, IA, avec JetBrain qui vient avec une solution plutôt sympa. C'est le programme de ce nouvel épisode. Ouais. Juste avant de commencer, peut-être, on peut remercier tous ceux qui nous sponsorisent, qui nous soutiennent à travers vos commentaires, vos likes, vos partages, mais aussi ceux qui le font de manière financière via le GitHub Sponsor. Un grand merci à vous, ça nous fait extrêmement, extrêmement plaisir. On attaque, Patrick ?
Oui, on attaque. Et comme vous pouvez l'entendre, mon micro fonctionne cette fois. Donc, désolé pour le dernier épisode qui n'était pas super agréable à écouter.
Devox, la fournée 2025 est désormais en ligne. Beaucoup de vidéos.
Beaucoup.
On va pouvoir passer pas mal de soirées à regarder les vidéos.
Ouais, il y a beaucoup. Alors, ils ont tout lâché d'un coup. D'un coup, mon flux est devenu rempli de Devox. Mais oui, beaucoup de vidéos. Après, chacun pioche comme il veut parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du Java, du JS, enfin, il y a du Kubernetes, alors ça, il y en a, en veux-tu, en voilà, c'est leur passion, mais ouais, il y a pas mal de vidéos, j'en ai regardé quelques-unes, j'en ai sélectionné quelques-unes, ça parle aussi d'IA, donc il y a vraiment un peu de tout, c'est bien aussi sur cette conférence, c'est que c'est vraiment un mélange de tout, toutes les technos, donc chacun y trouve son compte, donc c'est pas mal.
Mais, et surtout, évidemment, un grand merci à...
ouais.
À comment ?
Alexis.
Alexis, exactement, Alexis. Qui en fait nous a évoqué, ou en tout cas a dit qu'on était un podcast sur le sujet web, en fait, qu'on pouvait écouter. Et il a brossé en fait tout l'écosystème podcast, où il a présenté qu'est-ce qu'un podcast et en tout cas sur la tech, il nous a cité. Un grand merci à lui, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir.
Oui, d'ailleurs, s'il n'y a qu'une vidéo à regarder, c'est celle-là.
Évidemment. non, il y a les Signal versus React Hook, qui est plutôt sympa.
Oui, il revient. Il compare les hooks de React avec les Signal. Et voilà, il fait des démos, tout ça. Donc, elle est très intéressante, celle-là. Donc, comprendre comment fonctionne le Signal. Après, on a une sur HTMX. Ouais, HTMX aussi, un gars, un dev qui est plutôt. Ouais, je sais pas. Non, il n'est pas vraiment back, mais voilà, il explique comment fonctionne HTMX, comment il mixe entre le back et HTMX, les réponses, tout ça, sans faire de JavaScript. Donc, c'est assez intéressant aussi, bien expliqué. Après, on a deux vidéos d'Esteban. Alors, je pense que c'est un auditeur, Esteban. J'espère Esteban, si tu nous écoutes, laisse-nous un commentaire. Donc, il y a deux vidéos intéressantes, réactivité et signaux encore. Donc, tout ce qui est signal, encore une fois de plus, qui sont intégrés. Alors, lui, il est plutôt vu. Donc, du coup, signal dans vue, c'est bien intégré. Et une deuxième vidéo d'Esteban qui est super intéressante parce qu'il explique les dépendances dans les node modules et avec des outils en fait comment inspecter les dépendances, voir si c'est voilà, qui donne des alternatives à du JS natif parce que voilà, des fois on utilise des dépendances qu'on utilise depuis longtemps et puis finalement le JS a évolué et puis il y a une alternative maintenant qui existe dans JS parce que voilà, il y a des nouvelles API. Donc voilà, c'est plein d'outils intéressants, tout ça. Et assez courte en plus, là c'est un quart d'heure je crois, donc vraiment intéressante.
Après, faire voilà. Une migration de modules, il faut qu'il y ait un gain quoi. C'est soit on supprime une dépendance parce qu'avant on avait quatre outils et aujourd'hui il n'y en a plus qu'un qui fait la même chose, soit on a un gain en performance. Voilà,
c'est surtout pour voir à la fin le poids qu'une fonctionnalité t'apporte, en fait. Enfin, quel poids elle apporte dans ton package une fois qu'il sera construit. Voilà, c'est vraiment essayer de voir et optimiser, quoi. Et donc, il y a cet outil.
Outil, c'est Node Module Inspector. C'est ça, où là, en fait, on va écrire le nom du package et qu'est-ce que ça va faire ?
Il va lancer, en fait, il va l'installer sur une machine virtuelle. Enfin, non, c'est pas une machine virtuelle. Enfin, il l'installe et ensuite il l'inspecte. Il te donne les dépendances, tout ça, les poids, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment. Voilà, il inspecte vraiment ce qu'il y a dedans. Et tu peux décider après si tu peux continuer à l'utiliser.
Il n'y avait pas un système comme ça qui existait déjà, je crois que ça s'appelait. Bundle phobia ou un truc comme ça.
Mais c'est plus basique. Ça donne vraiment que le poids du module, tout ça. Que tu peux comparer éventuellement avec
d'autres.
Là, ça va vraiment l'installer. Ouais, ça va vraiment l'inspecter et voir quelles sont ses dépendances, etc. Donc voilà, il y a plusieurs outils. Ça, c'est un des outils, mais il y en a d'autres encore qui est dans la conf, qui l'explique, qui le montre. Et t'as vu par qui il est fait celui-là?
Non, ah bah Anthony Fou, bien sûr,
l'équipe de Next,
le GOAT du développement web sur tout l'écosystème Vue, Nuxt, c'est impressionnant sa capacité à délivrer tous les outils.
Je pense que c'est une IA en fait, ce gars.
ce mec n'est pas réel, mais si, évidemment, ouais. Évidemment. Yes. On revient aussi sur une autre conf, pour le coup, Strapi, qui est sortie en V5 et qui a été annoncée lors de une sorte de conférence annuelle. Clairement, qu'est-ce que ça amène ils ont réécrit des choses. Il y a des nouvelles fonctionnalités.
Ouais, il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors, première chose, ils ont réécrit en partie. Alors, maintenant, c'est full TypeScript, maintenant, Strapi. Donc, voilà, t'as l'autocomplétion, tout ça. Il me semblait qu'ils avaient déjà commencé il y a un moment, mais là, c'est apparemment complètement fini.
Ils ont fini leur migration.
Ouais, ils ont fini leur migration. Ils ont amélioré le mode brouillon édition. Donc, maintenant, t'as du versionning, tout ça. Tu peux valider, faire des choses en brouillon. Voilà, gérer vraiment l'édition de documents. Donc ça c'est pas mal. Ils ont changé l'API des plugins. Alors j'ai l'impression que ça fait 10 fois qu'ils la changent. J'ai l'impression qu'à chaque version ils changent l'API des plugins. Mais bon, je sais pas. Et après, nouveauté, le retour. Alors au niveau du cloud, ils proposent une version cloud où c'est hébergé chez eux, etc. Tu payes.
Ok.
Au CMS. Il y a le retour d'un free, d'un plan free en fait pour le cloud.
Ah. Donc, on peut tester l'outil gratuitement.
C'est ça, voilà. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il fallait payer.
Avant, c'était payant ou que dalle. Tu payes ou
ouais, puis ils avaient quand même bien baissé les prix depuis le début. Au début, c'était $99, je crois, le premier prix. Après, ça avait baissé encore. Et là, on est sur un mode free, voilà, pour des mini-sites où il n'y a pas beaucoup de contenu, etc. Donc, évidemment, il y a des limites, mais ça te permet, oui, effectivement, de mettre le pied dedans et puis de voir comment ça fonctionne et éventuellement de passer sur un plan supérieur. Donc, c'est bien. De pouvoir tester. Et ensuite, il y a aussi un nouveau mode. Donc, c'est marrant parce qu'on avait parlé de Directus dans le dernier épisode. C'est dans le dernier, je crois. Hein. Directus avec le mode preview. Et bien, Strapi arrive évidemment avec un mode preview. Alors, évidemment, ce n'est pas à copier puisque c'est quasiment en même temps, ils annoncent. Mais petit mode preview, mais un petit peu différent de Directus. Où là, tu n'es pas. Où Directus, je rappelle, c'était un système où tu cliquais sur le titre, etc. Tu avais vraiment une vision de la page et tu pouvais éditer. Là, c'est un mode où tu as d'un côté les champs à remplir et de l'autre côté, tu as la page qui s'affiche et qui est mise à jour au fur et à mesure que tu vas compléter les champs.
Donc, okay, c'est une sorte de dev mode pour donc à droite, droite les champs, à gauche le rendu immédiat, ce qui a toujours pour but en fait de faciliter la vie des marketeurs ou des non-tech pour voir en fait dans le contexte quand je modifie ce champ-là, ça bouge ça sur ma page et d'avoir sur la même vue les deux. Ouais, c'est super important. Pour l'adoption en fait des non-tech. Et je vois aussi prise en charge de I18N, donc qui est l'internationalisation, c'est-à-dire la gestion des langues, français, anglais, espagnol. Leur support a été amélioré de ce i18.
Ouais, de toute façon, ouais, ils ont amélioré plein de choses. Ouais, l'internationalisation, c'est toujours
difficile. C'est dur à dire. Hein.
celui-là, ils l'ont amélioré, donc plus facilement gérable au niveau du contenu. Enfin, voilà, ils ont amélioré énormément de choses. De toute façon, c'est une V5, donc il y a forcément beaucoup de choses qui sont améliorées. Et puis, ouais, je reviens sur le mode preview.
Ouais,
le mode preview, je disais, en fait, il y a la différence avec... alors moi, personnellement, je préfère presque ce mode-là par rapport à Directus. Pourquoi ? Et je l'avais déjà dit dans le dernier épisode, c'est que ce mode preview-là fait que tu n'intègres moins... Enfin, c'est-à-dire, tu sais, à Directus, tu dois mettre on avait dit, il faut mettre des directives ou des attributs dans dans les components, etc., pour vraiment le lier. Là, tu n'as pas besoin de faire ça avec Strapi. C'est juste un affichage, il met à jour, etc. Donc, perso, je préfère ça parce que tu es moins lié au CMS, etc.
Ouais.
Et puis, c'est...
Alors, voilà. Ouais, mais parce que toi, t'es dev...
C'est un choix, quoi.
Ouais, mais toi, t'es dev et t'as l'habitude de faire ça. Donc, ça se tient, tout. Par contre, quelqu'un qui est moins tech, lui, ce qu'il va vouloir, c'est avoir une sorte de WYSIWYG, un fichier Excel ou un fichier de Word, pardon, où quand je clique sur le titre, je modifie le titre. Et ça, en fait, bah, c'est super appréciable aussi. Donc, ça s'entend. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, le côté WYSIWYG, quand je clique sur le titre, je peux modifier le titre. Ça implique de faire des modifications dans le code qui est beaucoup plus contraignante que juste l'interprétation de la variable d'un côté et de l'autre, quoi. Donc,
ouais. Après, ça dépend. Ça dépend parce que tu as des gens qui sont à l'aise et qui vont être à l'aise sur une interface où tu cliques sur le titre et tu l'édites directement.
Ouais.
Mais tu as des gens qui sont moins à l'aise et qui préfèrent parfois des champs de formulaire. Ou voilà, ils savent où il faut mettre l'info et puis
ça dépend s'ils viennent de Elementor, WordPress ou pas, quoi.
Voilà.
Non mais donc, clairement c'est ça. Hein.
Ouais, donc voilà, il y a différents modes, mais bon après chacun. Mais bon voilà, mode preview super cool quoi, de pouvoir éditer, de voir ton site en live quoi.
Yes, ça marche. La suite, on avait vu Figma qui sort avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Site. Pour éditer des sites. Et là, en fait, on a pas du tout un concurrent, rien à voir, mais qui prend la même appellation, c'est-à-dire Upright, qui vient avec une solution d'hébergement, mais lui aussi, il l'appelle site. Clairement, pour ceux qui ne connaissent pas Upright, on pourrait dire que c'est un substitut, ou en tout cas, ça vient faire exactement la même chose que Supabase, c'est-à-dire une authentification, des fonctions, une DB, une API, du stockage. Et là, en fait, ils viennent avec une solution d'hébergement et donc ils viennent offrir, on va dire, un peu toute l'expérience. On pourra héberger le côté back-end as a service que offre Upright, mais on pourra aussi héberger chez eux la partie front qui vient se connecter à leur service. Plutôt pas mal.
Ouais, plutôt pas mal, ouais. C'est, mais après, tu peux l'héberger toi-même, hein, c'est ça, un peu le self.
Oui,
le self-hosting.
Oui, c'est open source. Mais comme Supabase, hein, d'ailleurs.
C'est
open source. Après, tu payes si tu veux gérer l'infra chez eux. Enfin, si tu délègues l'infra chez eux, tu vas payer, mais tu peux l'installer en trois clics sur ta machine. Ouais, carrément.
Je pense qu'il faudrait le tester, ce truc, en fait, parce que ça me semble bien intéressant. Mais il l'annonce vraiment comme la verselle alternative. En self-hosté, donc à voir comment... Il faut qu'on le teste, je pense. Il faudrait qu'on fasse un petit workshop. Okay.
Ah, alors là, par contre, j'ai mal compris, mais la partie site, en fait, c'est pour... en fait, c'est une surcouche d'hébergement
Oui, c'est ça.
De ton site. Donc, en fait, c'est une alternative à Coolify, en fait.
C'est ça, c'est une alternative à Coolify. Ouais, alors, peut-être pas aussi complète peut-être plus simple que Coolify. Mais ouais, okay. C'est un système comme Netlify ou Vercel où tu vas déployer ton site et j'imagine mettre des variables d'environnement, des trucs comme ça, avoir des logs de déploiement, enfin voilà.
Ok. Donc,
okay. Ça me semble pas mal.
Ça a l'air super cool. Ça a l'air super cool. Après, il y a plein de... Ok, j'ai 20 000 questions.
Disons que derrière, tu peux... Tu vois, du coup, comme ça, tu as toute la système authentification, base de données, tout ça. Si après, derrière, tu arrives à lier facilement tout ça, c'est peut-être pas mal du tout.
Ouais, parce qu'en fait, au lieu de coder leur interface et de créer tous les ponts avec Vercel, là, ils disent, bah, en fait, on développe notre propre plateforme et tout sera déjà connecté, quoi. Donc, si on a fait tout notre back-end as a service via Uprite, là, on utilise notre système et tout, à mon avis, les passerelles entre l'Uprite back-end et le front seront automatiquement intégrées et tout. Non, c'est malin, c'est malin, c'est malin, c'est malin. Non, c'est plutôt pas mal. Bah, tu vois, j'étais pas trop chaud pour tester et maintenant je le suis en fait. Là maintenant,
Ouais, mais carrément.
je le suis et je pense que ça peut être vraiment.
Ouais, faut qu'on teste ça parce que ça m'intrigue en fait. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne.
Ah ouais, carrément, carrément, carrément. Une autre lib qui peut être sympa pour la création des flux RSS. Alors vous allez me dire, ouais, les flux RSS, maintenant c'est un peu has-been, plus personne
Mais tu
utilise.
rigoles.
Mais au final, c'est partout. On utilise ça partout. Et donc potentiellement, on peut créer nous-mêmes nos propres flux avec respectant tous les standards. Et pour ce faire, on a une librairie qui nous permet justement de faire ça de manière assez propre et assez béton. Ça s'appelle FeedSmith. Et toi, tu as déjà un peu testé ou pas?
Non, je ne l'ai pas testé encore, mais
Ok.
ça pourrait être éventuellement une lib de remplacement. Parce que, évidemment, pour les podcasts, on a des flux RSS pour
Eh
publier sur les
oui,
plateformes. Voilà.
eh oui.
Donc, et on avait déjà un système, une lib qu'on utilisait dans le site, mais peut-être qu'on va. Je vais regarder si c'est mieux celle-là et peut-être que je vais remplacer par cette librairie.
Faire une migration. Et là, je vois en fait, on se rappelle qu'on avait galéré sur iTunes, parce que iTunes a leur propre standard. Et donc, il faut mettre les bonnes balises et tout. Et pour rappel, un flux RSS, c'est un flux XML. On ne peut pas dire que enfin, c'est pas super joli à faire. Donc, si pour le coup, on a une lib qui fait ça pour nous tout seul, c'est plutôt sympa. À tester?
Ouais, à tester, ouais. Mais ça me semble pas mal.
Est-ce que c'est la mort de Stack Overflow?
Bah, je crois que oui, hein.
Je crois
Ça
que
va être
c'est.
un des premiers, une première victime de l'IA, quoi. C'est, enfin voilà. A
Ouais.
priori, ils sont revenus à leur un nombre de questions de 2009. Donc ça fait mal. De toute façon, quand tu vois la courbe là, ils ont déjà. Alors Covid-19, ça avait déjà augmenté. Après, c'est redescendu. Après, t'as ChatGPT, le lancement. Et là, on voit que ça chute grave, en fait. Et puis
Ouais.
voilà, comme voilà, 2009 quoi, le nombre de questions posées. Alors après, d'autres personnes commentent en disant que ils sont devenus plus enfin ils ferment les questions plus rapidement, etc. Donc en même temps, voilà, la plateforme c'est un petit peu comment dire la
Auto
qualité, ouais, la qualité a baissé
saboter,
quoi.
tu veux dire?
Ouais, auto-saboter un petit peu, ouais, parce que ouais, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de la gestion voilà, de la
Ouais,
plateforme.
après, il y a un truc qui me dérange, c'est que en fait, l'avantage de Stack Overflow pour les devs, c'est qu'on pouvait poser des questions ultra précises et mine de rien, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de réponses qui étaient intéressantes. Il y avait des réponses de merde, on est complètement d'accord.
Ah, beaucoup,
Mais il faut pas oublier aussi que ChatGPT a été entraîné sur
oui.
une grosse base de Stack Overflow. Donc, si Stack Overflow est supprimé, ou en tout cas moins alimenté, ce qui veut dire que toutes les nouvelles questions avec les nouvelles techno n'auront pas de réponse. Mais peut-être il y aura une autre solution, un autre palliatif à ça. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait, si c'est bien ou pas la mort de Stack Overflow. Ce qui est sûr, c'est que Stack Overflow a baigné, on va dire, sur les 5 dernières années, même avant, hein, même les 10, on pourrait dire, c'était un site indispensable en tant que dev. On était obligé de passer par là parce qu'on avait eu des problèmes et on avait trouvé notre solution sur Stack Overflow, quoi.
Bah, la plupart des enfin, à chaque fois que tu tapais ton problème sur Google, tu tombais là, sur Stack Overflow, les premiers résultats. De toute façon,
Ouais.
c'était de suite, quoi. Mais
Ouais.
on en discutera après, parce que justement, par rapport aux annonces de Google, ça, voilà. Ce
Ça
que
va
tu viens de
bouger.
dire par rapport au fait
Eh
que
ben
bah,
oui.
si ça disparaît, est-ce qu'il y aura du contenu, on en discutera après.
Allez, on passe sur la section avec plein de petites librairies qu'on trouve sympas, qui nous facilitent la vie. Et là, ça s'appelle Paper.js. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien entre le nom et la fonctionnalité à laquelle cette librairie s'attache. Clairement, Paper.js, ça fait quoi ?
C'est pour animer des SVG, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, c'est vrai que le nom, il n'est pas explicite, mais... Voilà, tu peux. Donc, il y a plein d'exemples si tu vas voir. Et donc, tu peux animer c'est le troisième, ouais, c'est celui-là. Voilà, il y a plein d'exemples. Et puis, voilà, ils animent des choses, ça bouge, etc. Donc, c'est vraiment pour du SVG.
C'est réactif à la souris. Mmh. OK. Ça nous permet, en fait, de gérer toutes les animations de SVG, quoi.
C'est okay. Hyper fluide. Et, c'est, voilà.
et par contre, est-ce que ça fait tourner la bécane ou pas?
Ah ouais, toi tu peux pas voir vu que t'as un ordi super puissant. Il chauffe pas encore. Ça.
Il faut attendre que ça chauffe ou pas. Mais okay.
Ouais, j'ai pas regardé ça. Okay. Mais normalement non, puisque le SVG c'est quelque chose que voilà, c'est du vectoriel, donc normalement c'est bien géré. Après, si tu fais un SVG énorme, forcément ça va faire plus de calculs, mais bon, normalement ça devrait aller.
Paper.js pour gérer les animations des SVG. Mm. Autre librairie plutôt sympa, on a tous rencontré dans notre vie le CAPTCHA où on devait soit cliquer sur des vélos, des voitures ou dire oui, je ne suis pas un bot, je suis un humain. Et souvent, c'est le CAPTCHA de Claude Flair. Et là, en fait, on revient avec une solution qui, pour le coup, est open source. Alors, je n'ai pas regardé. La licence, c'est quoi ? C'est
ouais.
MIT, donc ouais.
Ouais, open source. Ouais.
Et ça s'appelle AltCHA. Et en fait, c'est une solution qu'on vient héberger nous-mêmes, si j'ai compris, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Auto-héberger, qui est compliance, etc. Et ouais, qui répond à tous les critères, quoi. GDPR, tout, en fait. C'est auto-hébergé et après, il y a pas mal de... Si tu redescends un petit peu, tu verras, il y a les exemples pour toutes les technos, pour l'intégrer, etc. Donc, c'est vraiment hyper complet. Okay. Et surtout, voilà, ça te permet de te libérer des CAPTCHA Google et compagnie, quoi.
Ouais, qui ne sont pas toujours super privacy-friendly, on va dire.
Bah, du tout, même. Ils ne sont pas du tout. C'est pas du tout. Ça met des cookies. Ça entraîne leur... À une époque, il y avait la légende qui disait que ça entraînait une IA derrière. Mais ouais. C'est... Voilà.
AltCHA, c'est plutôt pas mal.
C'est pas mal, ça. Ouais, pour... Si t'es une agence ou n'importe, tu intègres souvent des CAPTCHA, ça peut être une bonne alternative de l'auto-héberger et puis voilà, d'utiliser ton service.
Mais surtout, en fait, pour les clients en fait, qui ont cette sensibilité-là, en fait, beaucoup de clients aujourd'hui et de plus en plus ont cette sensibilité de privacy. Et donc, néanmoins, on ne peut pas se priver de ce genre de fonctionnalité pour être sûr de ne pas se faire scroller par des bots plutôt malveillants qui vont tester toutes les requêtes. Pour le coup, moi, j'ai analysé mes logs et j'ai vu que je me faisais scraper des données, et enfin que je me faisais visiter en fait, où ils testaient toutes les URL. C'est un site de e-commerce, donc j'ai pas trop le choix, mais en tout cas sur du contenu un peu sensible ou compliqué ou gourmand, énergivore, mettre ce type de solution là permet de mettre la barrière à l'entrée sans pour autant en fait être tout donné à Google, quoi. Donc c'est super super intéressant.
Ouais, ouais. Les CAPTCHA, on aimerait bien pouvoir s'en passer, mais malheureusement ils sont toujours très très forts pour réussir à passer les pièges qu'on essaie de mettre sur les formulaires, tout ça. Donc bon, yes. Parfois t'es obligé d'en mettre, donc ça peut être une bonne solution.
Et quand on parle de privacy et de sécurité, petit utilitaire qui s'appelle Proton URL qui nous permet en fait d'envoyer nos données sensibles. Donc on pense souvent aux clés API, souvent qu'on va partager sur WhatsApp. Pour info, WhatsApp, je ne sais pas si c'est super safe. Ou en tout cas, les emails et tout ça. C'est plutôt à éviter. Donc l'idée, c'est de pouvoir partager des données sensibles via un site où toutes ces infos vont être self, on va dire, elles vont se détruire au bout d'un certain temps ou un nombre de vues, c'est ça?
Bah là, celui-là, en fait, c'est chiffré de bout en bout, donc c'est vraiment. Après, je sais qu'ils stockent pas les chiffrements, tout ça. En fait, c'est vraiment hyper. Alors, c'est une connaissance, c'est un ami, voilà, qui a créé cet outil. C'est un outil qui est totalement gratuit et donc tu peux régler la durée de vie de ton URL. Ça peut être une heure, trois jours, une semaine, n'importe quoi. Et derrière, en fait, tu l'envoies, la personne le reçoit, enfin via l'URL, tu lui envoies l'URL, il l'ouvre. Donc, il récupère l'info et c'est fini. En fait, le truc se détruit et tu ne peux pas le réouvrir une deuxième fois. Donc, c'est okay. Hyper pratique parce que bah, les clés API, OpenAI, tout ça, tu peux te les faire envoyer. Et ensuite, une fois que tu l'as récupéré, bah, ça se détruit. Donc, c'est totalement confidentiel. Il n'y a pas de risque de fuite, voilà, parce que ces fois, tu vas partager sur Slack ou n'importe quoi. Tu as beau le détruire de l'historique, ce n'est pas totalement détruit, on ne sait pas. Ou sur un email. Alors, le pire, c'est l'email, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit outil vraiment pas mal qui est totalement gratuit, qui est en plusieurs langues, etc. Donc, voilà. C'est
parfait. protonurl.ch voilà.
C'est pas mal.
Exactement. Top. Allez, toujours sur les petits utilitaires pour les devs, on connaît tous on va avoir plein de petits logiciels qui vont parser, cleaner les URL, utiliser ou décoder des JWT, faire des diffs ou des choses comme ça. Là, en fait, le gros avantage, c'est que on va avoir tout en local. Et ça s'appelle Dev Suisse. Donc, c'est un peu le couteau suisse. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'enregistrer sur notre machine, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Tu l'installes et puis après, tu l'ouvres. C'est comme une application sur ton ordi. Et puis voilà, tu as plein de tools disponibles. Voilà. Tu mets des snippets, tu peux te transformer, faire des QR codes, voilà. Encoder en base 64. Enfin, voilà. Alors, on a plein d'outils qui font ce type de choses. Mais là, c'est regroupé dans une seule fenêtre, donc c'est pas mal. Formater le JSON, tout ça. Enfin, voilà.
Et ça marche hors ligne. Et pour le coup, vu que c'est en local, c'est vous qui maîtrisez tout, quoi.
Ouais, donc quand t'as pas de réseau, ça marche toujours en plus. C'est cool. Quand t'es en train de développer et que t'as pas de réseau, tu peux quand même l'utiliser. C'est cool.
La version 2 Tailwind CSS est passée en version 4, 4.1. Petit site qui vient en fait faire un énorme cheat sheet. On concentre toutes les informations en une seule page avec toutes les propriétés. Clairement, l'usage et l'interprétation CSS finale, c'est-à-dire la balise float va nous faire un float de ce qu'on a choisi.
J'aime bien le float.
Non, mais float-right.
Mais qui utilise float?
Ouais, je savais. Non, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, float-right, quoi. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas tapé un float, mais peut-être que dans certaines circonstances, il faut utiliser float. Pour le coup, ça fait longtemps que je n'ai pas eu le besoin, mais peut-être
alors
que
pour les, alors, on va quand même préciser, parce que pour les jeunes devs, les devs qui sont depuis pas très longtemps... il faut savoir qu'en fait, à une époque, il n'y avait pas grid, il n'y avait pas flex, etc. Et donc, pour le positionnement, on utilisait beaucoup le float, float left, etc. Donc, ça faisait partie du CSS, on en mettait partout, en fait. Et donc, c'est pour ça, c'est un peu une blague, puisque maintenant, on a totalement arrêté d'utiliser, en fait. Voilà, c'était une utilisation détournée du float.
C'est exactement ça. Mais en tout cas, ouais. petit site cheat sheet qui est plutôt sympa.
Ouais. Et il fait version 3 aussi. Hein. Normalement, je crois qu'il y a version 3, il me semble.
Tu peux choisir la version. Ça, ouais. Exact. Ouais, top.
Et puis surtout, tu as une recherche. Et quand tu fais une recherche, en fait, tu tapes un truc. En fait, il reste que ceux qui correspondent. En fait.
Nice. Nice.
Tu vois, hop, et voilà.
Cool.
C'est pas mal. Hein.
Et moi, j'utilise pas ça. J'utilise dans mon appli, dans mon launcher de Raycast, en fait. J'ai installé un truc Tailwind qui fait exactement la même chose. Et donc, comme j'utilise tout le temps Raycast, je suis un addict fan inconditionnel de Raycast.
Raycast qui est sorti sur iOS il y a pas longtemps.
Ouais. Et t'as testé?
J'ai pas essayé.
Non, moi j'ai testé.
T'as pas compris.
Non,
c'est à quoi
ça m'a pas emballé en fait, parce qu'en fait l'usage que j'en ai sur mon ordinateur avec mon raccourci clavier, je fais tout avec. Je lance mes applications, je fais mes recherches Google, mes recherches Amazon ou recherche tout ce que je veux. Je vais déclencher mes focus mode, voilà, il y a plein j'utilise aussi pour resizer mes fenêtres.
Moi, je l'utilise naviguer au taquet pour le copier-coller, en fait. Copier-coller.
Ah ben oui, non, mais bien sûr, c'est l'historique. Tu as tout ton historique de copier-coller. Indispensable. Indispensable.
Ouais,
mais
ouais.
J'avoue, sur la version iOS, j'ai pas compris. J'ai pas.
Ouais, l'utilité, ouais, c'est vrai.
Ouais, je suis sceptique, quoi. Vraiment sceptique.
Je sais pas essayer encore. Mais ouais, je vais essayer aussi, juste pour voir si j'ai le même avis. On verra.
Ouais, ouais. À voir. Autre utilitaire, en tout cas librairie, qui nous permet en fait de faire des flows. Donc, c'est devenu un petit peu à la mode et on a vu ça apparaître pas mal avec tout ce qui est automatisation ou en tout cas avec le développement des automatisations type Make N8N ou Make Zapier ou des choses comme ça. Et là, en fait, c'est une librairie qui va nous permettre en fait d'avoir dans un espace d'avoir des nodes et de créer des connexions. Et donc, visuellement, en fait, on va pouvoir concevoir et utiliser en fait ce genre de solutions. Et c'est fait directement en React Flow et en Svelte Flow, donc pour React et pour Svelte. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre.
C'est
intéressant,
propre.
Quoi.
Ouais, open source, propre, sur deux frameworks, donc Svelte ou React. Et donc, ouais, comme tu dis, ça permet de faire des systèmes avec des nœuds que tu vas accrocher, etc. Donc, des mind maps ou des choses comme ça, ou alors des automatisations. Voilà, tout ce qui est visuel, donc quand tu fais une application qui peut être une utilisation spécifique, pour avoir une visualisation des éléments, c'est pas mal. Et cette librairie te facilite la vie pour faire ça.
Ouais, sur toutes les interactions entre les nœuds, les connexions. Et donc, en fait, tout va être bien stylisé dans un tableau avec toutes les informations et leur représentation visuelle, tout. Non, hyper, hyper classe. Ouais. Parce que,
Tu vois, ça ressemble à... Ouais, ça ressemble à une sorte de JSON, en fait, rôle, le state. Donc, ça veut dire que tu peux le sauver, tu peux,
Exactement. Et pour le coup, les nodes, c'est vraiment les carreaux. Les edges, c'est les liaisons. Enfin, il y a toute une sorte de vocabulaire qui est plutôt bien expliqué. Ceci est un node, ceci est un handler, un edge, et en fait tout leur vocabulaire est expliqué, et ce qui fait qu'après visuellement on peut créer des choses assez rapidement, et donc c'est très intéressant parce que tout ce mécanisme de flow là, le faire côté front, ça peut être très compliqué, quoi. Ça peut être très compliqué.
Rien que le zoom et tout ça.
Top, super outil si vous êtes intéressé par ce système-là.
Ouais.
On reste dans la partie des outils. Je pense qu'on connaît tous Prettier et ESLint. Sur DoubleSlash, on a pas mal parlé de Biome.js. Et là, en fait, il y a un article assez conséquent qui revient sur et qui nous explique en fait comment faire la migration de ESLint vers Biome.
C'est ça. En fait, Biome qui regroupe... En fait, Biome, c'est du Rust. C'est écrit... C'est un peu un multi-outil avec du... vérification, comme l'ESLint, il va vérifier ton code, etc. Si tu as des erreurs, il va formater ton code comme Prettier. En fait, il fait plusieurs choses en même temps. Il formate tout ça. Et donc, il est sur Rust, donc il est ultra, ultra rapide. Et rien à voir avec Prettier, c'est ultra rapide. Et je l'ai déjà sur quelques projets, Biome, et il est très simple à utiliser parce que tu n'as quasiment pas de config, en fait. Voilà, ils ont décidé certaines règles de base et puis tu les suis. Donc, c'est pas comme ESLint où tu vas rajouter 18 modules pour que ça, voilà, que ça fasse exactement ce que tu veux. Enfin, tout le monde connaît ESLint avec le package.json qui est
et
plein de modules ESLint.
Ouais. Après, c'est super bien. Pour le coup, je trouve ESLint, tout ça, c'est super bien, mais c'est hyper...
Oui.
compliqué à mettre en place voilà, au départ. Et après, quand chacun y va de sa petite règle, non, mais nous, on veut une règle différente. Nous, ça peut vite être compliqué. Et je trouve que, OK, quel est le standard ? On respecte le standard. Alors oui, ça amène moins de flexibilité, soit, mais je pense qu'en plus, dans Biome, tu peux overwrite si
oui,
tu veux
faire
un custom.
Oui, tu peux mettre des règles, ça, bien sûr.
Donc,
non, ça, c'est dans la lignée de. Si tu veux, aujourd'hui, on a des outils comme Vite qui sont quasiment à zéro config de base et qui sont très rapides. Là, on est dans le même style. Voilà, tu as quasiment zéro config de base et c'est rapide. Donc, voilà.
Et pour ceux qui veulent faire la migration, il y a un petit article bien détaillé qui nous explique de passer de l'un à l'autre. Très intéressant. Très intéressant. Allez, on bascule dans le monde de l'IA parce qu'aujourd'hui, on se doit d'être un développeur IA, ce qu'ils appellent
un
le vibe
développeur augmenté.
Ouais, le vibe coding où on va.
Ouais, j'aime pas trop celui-là.
Le
vibe
le...
coding, ça me.
Ouais, ah, je sais pas.
Ouais, pas fan.
Ouais, qu'importe. Toujours est-il qu'on rentre dans notre rubrique IA et OpenAI vient. Modifier légèrement sa réponse de son API pour intégrer des nouvelles fonctionnalités.
Ouais, bah, en fait l'API s'appelle, alors bizarrement l'API s'appelle Response, et donc c'est l'API qui permet de communiquer avec les différents modèles, et donc il y a évidemment régulièrement des mises à jour, etc. Mais là ils ont la nouvelle, c'est l'intégration du MCP support. Voilà, donc on va pouvoir mettre des... Alors ils avaient déjà annoncé qu'ils allaient prendre en charge le MCP. Il y a quelques semaines, et donc c'est fait en intégrant dans l'API. Voilà.
Et pour le coup, c'est en train de devenir un peu un standard qu'on retrouve un peu partout, quoi.
Un peu partout, MCP. Oui.
Ouais. grosse hype, mais en même temps, ça amène quand même pas mal d'infos. Donc
très grosse hype, ouais. C'est assez hallucinant. En peu de temps, en 6 mois, comme le MCP est en train de s'imposer, et tout le monde fait son serveur MCP, le propose, etc. Mais vraiment, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Hein. C'est Zapier vient de... Il y a Zapier,
les gros sons, acteurs, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Donc, couplé avec une IA, tu peux faire des choses intéressantes. Alors, évidemment, attention, toujours faire attention à ce que vous installez, puisque vous partagez vos clés, etc. Donc, attention à choisir des serveurs MCP officiels, etc. qui sont, voilà. Mais je pense qu'il y a déjà des repos qui répertorient tous les serveurs MCP, tout ça, qui sont dispo. Et je pense que prochainement, on aura, si ce n'est pas déjà fait, des outils qui vont analyser les services MCP pour voir s'il y a des failles ou des... Voilà, ouais. Les choses qui...
Si c'est clean. Après, pareil sur les registries, bien faire attention parce que quelqu'un de malveillant monte son annuaire MCP. Au final, il redirige vers des choses. Enfin voilà, donc attention aussi. Mais déjà, si on va sur le site officiel, je pense qu'on optimise nos chances. En tout cas, on diminue nos chances d'avoir des MCP un peu vérolés. Quoi.
Ouais. Ouais, attention, parce que tu vois, quand tu commences à mettre un MCP serveur de Stripe, faut mettre le bon, quoi.
C'est pas la même. Ouais, c'est pas le même délire, quoi. On est complètement d'accord. OpenAI qui lève le voile sur son modèle, ou en tout cas sur son agent dédié pour le code, vraiment spécifiquement pour le code, qui s'appelle Codex. Bizarrement, tout le monde a le même nom, donc ça va être facile.
C'est vrai, clair. Hein.
Tout le monde appelle.
C'est pas très original.
C'est pour capable d'écrire du code, corriger des bugs, tout ça, faire des tests. Ok, mais en fait, tous les autres, enfin, je pense à Mistral qui voilà, donc,
Mistral.
Ouais, exactement. Et donc, maintenant c'est officiel, ils ont leur.
Ouais, alors comme je te disais, moi perso, j'ai pas pu le tester parce qu'il faut un compte pro. J'ai un compte OpenAI payant, mais c'est pas le mode pro. Enfin, c'est le modèle au-dessus. C'est le mode au-dessus, en fait, le pro. Donc, j'ai pas pu le tester. Mais il
Ok.
semblerait que ce soit l'équivalent du chat qu'on a dans
Dans
VS
le
Code.
copilote.
Ouais, dans le copilote, voilà, avec qui tu vas interagir. Il va voir ton code, corriger, etc. Donc, voilà.
Bon,
On est dans
après,
ce mode-là.
il vient en frontal direct avec les codes sonnettes, enfin les cloud, Claude sonnettes ou des choses comme ça, tous les modèles qui étaient un peu dédiés
Bah, Gemini
pour le
aussi.
code, quoi. Ouais.
Bah après, c'est incroyable la fascination qu'ils ont de faire des modèles pour faire du code, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plus de modèles générés pour générer du code qu'autre chose, en fait, pour l'instant.
Ben ouais, mais en même temps, ça se tient parce que c'est un peu. Enfin, je vais pas dire que c'est facile, mais les langages en fait sont plutôt explicites et clairs sur la doc. La doc est hyper bien documentée, donc on vient alimenter un modèle et maintenant, bah vas-y, construis tout. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile et j'ai l'intime conviction que les modèles d'IA demain seront hyper spécialisés. Donc, avoir un modèle hyper spécialisé pour faire du code, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un modèle générique qui fait plein de choses et donc par défaut qui va tout faire assez mal, en fait. Et l'avantage, c'est que le monde de l'informatique et de la documentation technique est plutôt bien fourni, donc il y a de la matière. Et en plus, souvent, elle est écrite, donc c'est d'autant plus facile, quoi. Donc,
Ouais,
l'effervescence et
tester, ouais.
l'apparition de tous ces codes, de tous ces modèles spécifiques au code, ouais, ça me surprend pas. Et puis, quand tu vois l'essor de Cursor, Windsurf et tout ça, bah ouais, tout le monde a envie d'avoir son outil pour le marché, quoi, tu vois.
Ouais, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais ok. On
Et
continue sur OpenAI.
donc on bascule sur OpenAI avec GPT-5 et il s'est pas encore
Ouais.
sorti ça.
Bah, ça a fuité, en fait, ça a fuité comme quoi il y aurait un GPT. Il travaillait sur GPT-5 pas pour de suite, hein, évidemment, mais voilà, prochainement. On annonce éventuellement seconde moitié 2025, donc plutôt fin d'année, on va dire. Et surtout, la nouveauté, c'est une unification des modèles. Donc, ils vont partir sur un modèle unique, donc probablement GPT-5, pour arrêter de fragmenter en fait tous les modèles OpenAI où on en a une pléthore avec des noms dans tous les sens, 4O, 4 mini, machin, tout ça. Voilà, on a vraiment le commun des mortels se perd un petit peu. D'ailleurs, dans le chatbot, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant qu'on peut changer le modèle en haut, tu vois, par exemple. Donc voilà, ils vont essayer d'uniformiser tout ça sur un modèle unique qui sera capable de tout prendre en entrée et après de faire différentes tâches. Donc c'est pas mal.
Ok. Nice. Nice, nice.
Multimodal et compagnie. Et puis, alors une autre news aussi qui n'est pas dans les news, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler. On va finir sur OpenAI. Ils viennent de prendre la totale main sur une société de Jonathan Ive. Tu vois qui c'est? L'ancien
Ouais,
designer d'Apple.
l'ancien
Qui avait
design, ouais.
créé. Voilà, il avait créé une société en fait, qui était spécialisée dans les outils, enfin dans les devices IA.
OK.
OpenAI avait 25%. Ouais, voilà, tu vois, des trucs qu'on ne sait pas vraiment. OpenAI avait 25% de parts dans cette boîte et ils viennent de passer à 100%, donc ils ont tout repris
Donc ils ont tout
dans le
racheté.
but, ben en fait, voilà, ils ont tout racheté dans le but de, éventuellement, en 2026, sortir un device IA. Donc OpenAI va se lancer dans les devices aussi, tu vois, avec le
Ouais.
design de Johnny Ive. Donc là, on est.
Ouais,
Et ils viennent de racheter ça à 6,5 milliards, donc la plus grosse acquisition.
ouais. Après, il y a déjà eu des devices IA. Là, on se rappelle du
Oui,
Rabbit
alors, ouais, des
machin, là. Mais bon, ça a flopé parce que les mecs, ils ont leaké leur propre API,
flops,
leur clé API, tout machin.
ouais.
Après, clairement, celui qui. Enfin, c'est un basique, hein, mais celui qui contrôle le software, le hardware. Et l'hardware déporté, donc les serveurs et tout, ils contrôlent tout. Et donc, bah oui, clairement, là, on a vu que celui qui contrôle le hardware avec le téléphone, c'est lui qui contrôle le plus toute la chaîne. Donc, c'est pas surprenant que OpenAI se mette sur du hardware. Ouais. Pour aller maîtriser toute la Alors, valeur et toute la chaîne. Ça se tient.
C'est du hardware. Alors par contre, c'est spécialisé dans le hardware qui est sans écran. Voilà, c'est des petits trucs sans écran. Donc à voir ce qu'ils vont pouvoir sortir. Mais
ah ouais.
C'est incroyable. Je trouve l'ascension d'OpenAI est incroyable en fait. Là, c'est-à-dire que s'ils font du device, on va les mettre au même niveau qu'Apple bientôt. En plus, avec du design forcément sympa, avec Johnny Hive, donc à voir.
Après, ouais, à voir comment ça... Mais c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Ça, c'est sûr que ça amène une grosse info, quoi.
En tout cas, c'est toujours incroyable le nombre de milliards qui sortent.
Que ça brasse. Alors, mais on est complètement d'accord.
Là, on parle en milliards, quoi.
Là, c'est la hype, quoi. C'est la hype. Allez, on revient sur des choses qui, nous, en fait, on va utiliser la hype, mais qui vont nous faciliter la vie. Copilot, maintenant, on en avait déjà à moitié parlé, mais dans les derniers épisodes, mais là, on y revient un petit peu plus précis. Maintenant, on peut faire du chat, on peut afficher... on peut afficher ou on peut aller directement utiliser l'agent de Copilot pour aller en fait exécuter du code et en plus ce qui est super intéressant c'est qu'il va nous dire ça tu veux garder, ça tu jettes, ça tu gardes, ça tu jettes.
Ouais.
Donc on peut vraiment choisir ce que l'on garde et ce qu'on refuse ou ce qu'on peut régénérer.
Ouais. Donc super. Voilà, c'est plein de nouvelles features, totalement intégrées dans VS Code. Là, on se rapproche vraiment de Cursor et compagnie, quoi. Donc
ouais. Je pense que ça se tire la bourre entre Cursor et Copilot. N'oublions pas, même si tout le monde parle de Cursor et tout le monde est hypé, Cursor, ça reste quand même qu'un fork de VS Code. Hein.
Comme Windsurf.
voilà. Après, ok. Deuxième point aussi, c'est que Copilot, c'est le premier à avoir fait le job, mine de rien. En tout cas,
il a débroussaillé.
C'est lui qui a exploré le chemin, ouais, complètement, qui a débroussaillé. Et mine de rien, derrière, c'est GitHub, ils sont monstres. Enfin, c'est des grosses boîtes.
Microsoft.
Et donc, c'est Microsoft derrière, tout. Objectivement, je pense que Copilot n'a pas dit son dernier mot, je pense.
Non, il n'a pas dit son dernier mot. Et puis, je le réutilise en ce moment. Alors, j'arrête pas de changer d'éditeur de code. Mais je le trouve plutôt pas mal. Et point supplémentaire pour Copilot par rapport aux autres, en fait, c'est que... Donc, évidemment, il marche dans VS Code, mais il marche aussi dans GitHub.
Et ouais. Donc,
Et voilà, et donc tu retrouves le copilote dans GitHub quand tu es sur le web, même dans la, tu sais, comment ça s'appelle quand tu ouvres l'éditeur dans le browser là, tu sais, le mode VS Code en browser. Code Space aussi, là, donc tu retrouves aussi dans Code Space, tu vois, donc il marche sur différentes fenêtres. Voilà, point supplémentaire plus avantageux par rapport au Cursor, où ça marche que dans Cursor, en fait, finalement.
Et ouais. Et pour le coup, moi, ce que je trouve super cool de l'avoir dans GitHub, c'est qu'en fait, quand tu lis du code, et pour le coup, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je pense qu'on lit pas, on écrit trop par rapport à ce qu'on lit. Et en fait, le fait de te forcer à lire du code, ça t'aide à être meilleur. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu.
Oui,
et le fait d'avoir Copilot dans GitHub, tu peux poser des questions, tu sélectionnes, tu dis vas-y, explique-moi ça, c'est quoi ça. Et en fait, moi, j'utilise comme ça et je trouve ça vachement intéressant pour justement monter en compétences. Et le fait que ça soit intégré dans GitHub, bah, je trouve ça vachement bien parce qu'on peut poser les questions dans le contexte de GitHub. Et donc,
carrément.
C'est top.
Et justement, il y a une vidéo qui explique tout ça, qui était sur Devox. Donc, elle est un peu séparée. On en a parlé de Devox au début de l'épisode, mais on avait aussi une vidéo, et je l'ai mis plus dans la rubrique IA, de deux personnes, deux filles qui bossent chez GitHub et qui expliquent sur une vidéo là, de 45 minutes les différents modes, agentique, etc., chat et tout ça. Et aussi, ils parlent de GitHub, de l'interface. Et ce qui est super, en fait, alors je pense que c'est accessible que dans les modes... pro peut-être ou entreprise, enfin à voir sur quel mode c'est accessible, mais quand tu vas faire une PR par exemple, tu vas pousser, Copilot va commencer à analyser ta PR, à la lire, à te donner des points d'amélioration déjà. Donc il fait déjà, il pré-mâche le boulot, tu vois, que pour le reviewer, tu vois, il va pouvoir arriver et dire, ah bah tiens, copilote, t'as dit ça, oui, je suis d'accord, machin, bidule. Et deuxième mode aussi, il y a un mode qui permet de vérifier s'il n'y a pas des failles de sécurité, etc., des injections possibles, des choses comme ça. Donc il y a ces deux modes qui sont, ça pour ça, l'IA, c'est top, quoi. Je veux dire, ça te facilite le travail, ça vérifie ton code, ça te sécurise le code. Là, c'est vraiment le bon côté de l'IA, quoi.
Nice.
Voilà, super vidéo.
Et JetBrain dans tout ça ?
Bah, JetBrain, alors oui, on a eu un commentaire dans le dernier épisode. Ouais, vous avez oublié Johnny. Eh ben voilà. Et c'est pas Johnny, c'est Juni.
C'est Juni. Et Johnny. Non, c'est Juni. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le copilote de oui. JetBrain ?
Ah, c'est ça, ouais.
Ok.
C'est ça, c'est le copilote de JetBrain qui est évidemment exclusivement utilisable sur les outils JetBrain. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un mode. Alors, j'ai pas testé parce que j'ai pas de JetBrain en ce moment, mais moi, j'imagine qu'il y a un mode agentique, etc. Donc, on est vraiment sur l'équivalent, ouais.
Ok. Autre, ils ont pas voulu copier, hein, mais on dirait quand même. Il s'appelle Jules, Jules, avec un S à la fin. C'est un agent de code. Le site peu dans le même délire que le site précédent, quand même. Hein. On retrouve un petit peu ça, ouais. grosse inspiration du design. Par contre, toi, t'as été un peu hypé par le site. T'as testé. Et qu'est-ce que ça dit?
Bah écoute, alors tu branches, quand tu vas dessus, pour le tester, tu branches un repo GitHub. Et ensuite, il est censé communiquer avec ce repo, puisque tu l'as sélectionné. Et là, je lui ai demandé de faire des choses. C'est un astro. Je lui ai dit, essaie de me mettre à jour l'astro, tu vois, la version. Mm. Et là, il ne comprenait pas déjà. Ouais, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez faire, machin. Ouais, je vais aller voir la dernière version d'astro. Enfin, il ne comprenait rien, en fait. Après, je lui ai dit, est-ce que j'ai des failles de sécurité? Et pareil, il est complètement paumé, le truc. Donc, en fait, j'ai posé les mauvais prompts, soit il est très mauvais. Voilà. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas convaincu pour l'instant.
Ouais, c'est rare qu'on trash hein, une solution qu'on présente, Patrick.
Je sais pas, en fait. C'est Google qui a sorti ça. Mais, alors, on parlera des annonces Google juste après, mais
c'est backé par... En fait. Ah ouais, c'est incubé Google, chez Google Lab. Ok.
Je soupçonne, en fait, Google d'avoir envoyé un mail à tous les employés en disant « Maintenant, vous faites que de l'IA, je veux rien savoir. Sortez un truc en IA. » Et donc, les mecs, ils ont fait ça. Et puis, en fait, ça marche pas. Mais je sais pas, en fait. Mon test n'est pas concluant, quoi.
Après, je sais pas si c'est encore le cas, mais je sais qu'à une époque, chez Google, il y avait beaucoup de ils avaient le droit de bosser sur des side projects. Ouais. Et en fait, il y avait Gmail qui était sorti comme ça, tout. Et ça se trouve, ce projet-là est issu, en fait, d'un side project des mecs qui bossent chez Google, tu vois. Donc, peut-être que derrière, ça peut sortir vers autre chose.
J'espère qu'ils vont l'améliorer, en tout cas.
À voir. Et la Google I/O a eu lieu. Alors moi, je suis passé complètement à côté. on en parlait tout à l'heure en off avec Patrick. Je suis passé totalement à côté. Qu'est-ce que j'ai raté, Patrick ?
Écoute, il y a énormément d'annonces sur la Google I/O et notamment de l'IA partout. Ils en ont mis partout, sur tous les outils Gmail, Chrome. Tu vas débugger dans le DevTools avec une IA. Ils en ont mis partout. En fait, c'est pas compliqué. Ils ont mis partout où ils pouvaient en mettre. C'est-à-dire que c'était le mot-clé de la Google I/O. C'est de l'IA là, de l'IA là, de l'IA ici. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Ils en ont mis partout. Et donc, c'est incroyable, avec surtout Gemini Pro 2.5, voilà. C'est le modèle actuel qu'ils ont sorti, qui est le plus performant chez eux, et qui est multimodal, qui est capable de faire plein de choses. Ils ont des modèles de vidéo, ils ont des modèles pour le son, enfin, ils ont plein de choses. Voilà, c'est vraiment... là, on voit vraiment qu'ils sont partis en mode IA à fond, quoi. Il n'y a plus que ça qui compte. Donc, on peut dire que c'est une réponse directe à OpenAI, quoi, c'est clair. Voilà, mais c'est bien, tu vois, ils ont été un peu secoués par d'autres sociétés, donc ils se réveillent un peu et puis ils essaient de sortir des équivalents. Mais moi, je voulais revenir surtout sur la recherche, où il y a eu des annonces assez incroyables, Donc, certains disent, alors j'ai vu des vidéos de médias sur YouTube où ils disent bah, Google a tué le web, en fait, voilà, c'est la fin du web. Mais en fait, la grosse nouveauté, c'est que en fait, la recherche Google, comme on la connaît aujourd'hui, va complètement changer et va se ressembler plus à Perplexity assez rapidement. Donc, en France, on n'a pas encore le lancement officiel de l'onglet IA, mais aux États-Unis, tout ça, c'est déjà lancé. Où tu vas lui poser des questions, il va te répondre, il va te résumer, etc. Vraiment en mode Perplexity. On est vraiment sur un mode comme ça. Donc, de toute façon, c'est clair que dans le futur, ça sera la recherche Google, ça sera ça. Je ne sais pas si on pourra l'appeler encore recherche, d'ailleurs. Puisque et bah déjà, dans un premier temps, la crainte, en fait, c'est que bah une fois qu'on aura le résumé, bah les sites se posent la question, est-ce que les gens vont cliquer et vont venir sur le site ?
Ouais.
Ça, c'est la première question. Et deuxième question, c'est bah, OK, si plus personne vient sur le site, bah, on va arrêter de faire des sites, donc il n'y aura plus de contenu. Donc, qu'est-ce que l'IA va aller scraper ?
Ouais, alors, je ne vais pas faire mon vieux compte, tu vois, mais en fait, à chaque nouvelle innovation technologique, on allait dire, ouais, ça va tuer. Genre, la vidéo allait tuer la radio. Et pourtant, il y a encore de la radio aujourd'hui, tu vois. Les vidéos vont tuer les bouquins. Les e-pubs
oui, mais c'est vrai, c'est
ou ouais. Les Kindle, en fait, vont tuer les livres en papier. Mais il y a encore des livres en papier. Mmh. Et tu vois, et donc en fait, je ne crois pas qu'il y aura une. Ça ne sera pas et. En fait, ça ne sera pas ou. Je pense que ça sera du et. Et donc, je ne pense pas que ça va tuer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment comme ça. Je peux me tromper. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que pour nous, les devs, on va être obligé de pousser le sitemap pour le SEO. Et je pense que maintenant, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des sortes de sitemaps pour les LLM.
C'est-à-dire, en fait,
et exactement. C'est le sitemap pour les LLM où, en fait, on va lui donner de la matière. Et comme ça, quand le scrapper de OpenIA ou de Google qui vient pour les IA, on vient lui donner peut-être du contenu différent. Et donc,
oui.
Si en fait notre modèle, si en tout cas si le modèle est entraîné avec nos données, bah en fait on a déjà gagné le match en fait, parce que on s'impose comme je sais pas la référence sur notre sujet. Donc je pense qu'il y aura une course là-dedans. Le SEO va changer, ça c'est clair. Mais
ah oui, oui.
Il y aura aussi cette facilité pour nous, en tout cas, à intégrer, je pense, dans nos applications, dans nos sites internet, le sitemap LLM, quoi, on va dire.
Ouais, le LLMS, il faudra qu'on en parle, un de ces quatre. Mais alors, officiellement, ce n'est pas encore pris en charge par OpenAI, tout ça, officiellement. Ils n'ont pas annoncé, mais bon. Alors, attends, parce que je n'ai pas fini. Autre annonce. Google Shopping, au niveau de Google Shopping, en fait, tu vas pouvoir t'inscrire à des alertes sur un produit, par exemple, bah, dis-moi quand il baisse le prix, tout ça, machin. Donc, le truc va t'alerter, en fait. Alors, après, évidemment, c'est de la présentation Google I.O., tout est beau, tout fonctionne, après, il faut voir dans la réalité. Mais le truc va te prévenir que bah, le prix a baissé et il va te proposer, en fait, de l'acheter. C'est-à-dire qu'il va aller l'acheter pour toi. Voilà. Donc, parce que Google a déjà tes informations bancaires, etc., ton adresse. Donc, il va aller sur le site e-commerce. L'agent, il va passer commande, etc. Donc, c'est pas toi qui va aller sur le site, c'est l'agent qui va venir. Donc, on en vient à ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes où c'est les agents qui vont visiter les sites. Donc, ouais. ça, par contre, ça, c'est déjà, tu vois, tu commences à te dire, ah, c'est plus les gens qui viennent acheter, c'est les agents. Donc, à voir dans le futur comment ça va fonctionner, si ça fonctionne bien ou pas, mais.
Ouais, mais ça, il faudra aussi que nous.
C'est un cartel, quand même.
Non, mais bien sûr, mais. Moi, j'y vois une opportunité de business, quoi. Que si, en fait, tu t'arrives à créer, en fait, un espèce de système où tu crées ton agent pour ton client, pour son e-commerce, WooCommerce ou Shopify ou je sais pas quoi.
Ouais, ouais.
Et en fait, tu viens lui intégrer pour que demain, Jacqueline, elle puisse, avec son téléphone, utiliser l'agent qui va bien et acheter son paquet de fleurs ou je sais pas quoi. Tu vois, le truc typique, achète des fleurs pour ma femme et envoie-lui. Voilà, texto, c'est fait, quoi, bim, terminé. Je pense qu'il y aura un usage. Après, il y aura toujours des personnes qui voudront choisir spécifiquement les fleurs qu'ils veulent, tel bouquet, livré à telle heure. Mais il y aura un usage à ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
Bah, de toute façon, c'est, comme tu dis, de toute façon, on a le LLMS.txt qui a fait son apparition. Mais je pense qu'à un moment, ça va évoluer. On va avoir peut-être des API qu'on va créer pour que le LLM se connecte à l'API plus simplement au lieu d'aller sur le site. Finalement, ça sera plus rapide, plus efficace.
Un MCP.
Je sais pas, voilà. Ça va évoluer. Ouais, un MCP, par exemple. Donc, il y aura de l'évolution, de toute façon, dans les moyens de communiquer avec le LLM au niveau des sites, tout ça. Donc, à suivre, mais c'est intéressant. Malgré tout, les AI Overview, tu sais, on a parlé dans le dernier épisode que les gens se plaignaient que ça envoyait pas tant de clics que ça. Ouais. Bah, ils l'ont lancé partout. Voilà, maintenant c'est dans 200 pays. Donc voilà. Donc en France, je crois que c'est pas encore totalement lancé, mais
à voir avec le retour, quoi.
De toute façon, c'est lancé. Donc là, il y a pas le choix. Google est parti, le train est lancé, donc on va falloir s'adapter. On n'a pas le choix. Mais il faut être au courant, il faut suivre ça parce que voilà, c'est des gros changements qui arrivent, quoi.
Et en attendant d'avoir le Google avec la sémantique, l'IA et la recherche qui fusionnent, on peut déjà dire que nous, on est déjà adeptes et fans de Perplexity, on peut le dire.
Moi, je suis 100% fan. Ah, j'adore Perplexity, ah ouais. je l'utilise à fond. Et en plus, maintenant, il est super rapide. Donc, tu poses une question, il te répond rapidement, il te fait des résumés assez concis, et puis tu peux les partager. D'ailleurs, j'en ai partagé là sur l'épisode. Donc, c'est vraiment hyper pratique l'outil. Et puis, tu as les news aussi que tu peux lire tous les jours. Voilà. Il te fait des résumés de news. Alors, plutôt américaine quand même. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Ce serait bien si vous pouvez le localiser un peu plus en Europe, en France, tout ça. Mais
après, à toi de modifier ton prompt pour aller donner tes sources.
Oui, c'est vrai.
Tu vois.
À moi d'ajuster. Ouais.
Bien sûr. Mais pour le coup, c'est possible.
En tout cas, tous les deux, on fait pas de pub, on n'est pas affilié, rien du tout, hein, mais on est abonné chez Bouygues Télécom. C'est le hasard. Hein. Et qu'en fait, quand vous êtes abonné Bouygues Télécom, vous avez droit à un an de Perplexity gratuit. Donc, je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est plutôt cool parce que c'est 20 balles par mois, je crois, Perplexity. Donc, ouais. C'est 200, plus de 200 euros pour l'année. Et donc là, avec l'abonnement Bouygues, vous allez sur votre compte, vous cliquez, enfin, vous allez dans les options, je sais plus où c'est. Enfin, ça se trouve sur le net. Demandez à Perplexity, si vous voulez. Et vous avez un an gratuit de Perplexity. Moi, j'ai déjà activé. Toi aussi, d'ailleurs. Et voilà.
Et pour c'est le coup, tester, c'est malheureusement, c'est approuvé, quoi, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et ça nous sert vraiment pour construire, pour au quotidien, mais pour le boulot aussi et pour le podcast aussi. Donc, Perplexity, un super, super outil.
Ouais.
Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode.
Oui, on est pas mal là.
On est pas mal. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à nous mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Ça nous fait extrêmement plaisir. On vous dit à très vite pour un autre épisode. Ciao, ciao.
Ciao.